14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
La mi-journée dans un quartier bourgeois du centre de Valenciennes, dans le Nord, avenue Carnot, une femme médecin, rhumatologue, a été mystérieusement égorgée dans son cabinet.
Bonjour, Sophie Berkmans était une rhumatologue qui soignait avec gentillesse les plus démunis et adorait l'opéra. On ne lui connaissait pas d'ennemis. À Valenciennes, on l'appelait le bon docteur Berkmans. Elle est pourtant morte de la façon la plus barbare qui soit, à l'automne 2002, un meurtre incompréhensible et une enquête qui va faire du surplace pendant de longues années. Tant la vie de Sophie Berkmans ne va présenter aucune aspérité, aucun recoin secret susceptible de faire apparaître une piste digne de ce nom. Les investigations vont ressembler à une série de montagnes russes alternant espoir et désillusion avant que les enquêteurs ne s'intéressent de près à des bouts d'ongles découverts sur la scène de crime et désignent un suspect. C'est cette enquête longue, difficile, douloureuse, mais aussi exemplaire que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui avec nos invités en hommage à une femme qui ne cherchait que le dévouement et qui est morte dans un déferlement de violence absolue.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Sophie Berkmans, cette médecin rhumatologue de Valenciennes menait la plus tranquille des existences jusqu'à ce qu'on la retrouve assassinée de la pire des façons à l'automne 2002. Ce lundi 7 octobre 2002, aux alentours de 13h30, Valérie, secrétaire au cabinet médical de Sophie Berkmans, au numéro 1 de l'avenue Carnot à Valenciennes, attend que la rhumatologue vienne lui ouvrir la porte. Mais personne ne répond à ses coups de sonnette. La docteure ne répond pas non plus au téléphone. Sa voiture est pourtant bien devant la maison. Sophie Berkmans a l'habitude de déjeuner ici chaque jour. Le cabinet est également son domicile. Valérie est décontenancée, elle appelle alors Suzanne Berkmans, la mère de la rhumatologue qui habite à 10 km. Celle-ci possède un double des clés. 20 minutes plus tard, les deux femmes entrent dans la maison, la mère file dans la cuisine où la table est dressée. Un bol de soupe est dans le micro-ondes, aucun désordre. La secrétaire pénètre, elle, dans le bureau et se fige aussitôt. Le docteur Berkmans gît sur le sol et baigne dans son sang, les collants abaissés, le visage méconnaissable, la gorge ouverte comme si on avait voulu la décapiter. Une scène inouïe, une scène de massacre, dit l'un des premiers policiers arrivés sur place. Les inspecteurs du commissariat de Valenciennes, épaulés par la PJ de Lille, font les premières constatations. La victime a tous ses bijoux sur elle, une boucle d'oreille a été découverte dans l'entrée. Rien n'a été volé dans le cabinet, aucun tiroir n'a été fouillé. Un cambriolage qui aurait mal tourné est exclu. Sophie Berkmans, 41 ans, célibataire, rhumatologue qui a pignon sur rue depuis 10 ans, n'a pas été violée en dépit d'un corps retrouvé en partie dénudé. L'autopsie indique qu'elle a été frappée avec une violence extrême, sans doute à coups de poing. L'attaque a eu lieu aussitôt après qu'elle a ouvert sa porte, cognée tellement fort que la dentition a explosé. Elle a ensuite été traînée, étranglée à main nue par un individu aux mains larges et puissantes. Celui-ci s'est ensuite acharné sur la malheureuse, qui à aucun moment n'a pu se défendre. Il lui a ouvert le cou de gauche à droite avec une arme blanche qui n'a pas été retrouvée. Dans le quartier et dans toute la cité, la consternation règne. Sophie Berkmans était une femme médecin dévouée, toujours disponible, arrangeante avec les plus démunis, le cœur sur la main. Le jour de sa mort, elle a consulté au centre médical puis a rejoint son cabinet vers 11h30. Elle s'enfermait pour prendre son repas mais ouvrait sans méfiance à quiconque sonnait à sa porte, toujours prête à rendre service. Les enquêteurs se tournent en priorité vers une famille écrasée par la douleur. Il apparaît que Sophie fréquentait depuis quelque temps un prof d'informatique de Villeneuve-d'Ascq, prénommé Rachid. Celui-ci, également célibataire, est interpellé dans la soirée sans ménagement et placé en garde à vue au commissariat de Valenciennes. Il a passé le week-end avec Sophie, dont il avait fait la connaissance sur Internet. Pas sur un site de rencontre à vocation sexuelle, mais dans un espace où l'on parle de culture, d'art et d'opéra, la passion de la victime. Le professeur tombe des nues en apprenant le crime. Il est bouleversé. Quand la rhumatologue a été tuée, il était en cours, au lycée. Il ne peut pas être le meurtrier, il est relâché. L'examen du téléphone portable de Sophie Berkmans est des plus simples. Elle n'avait que 3 contacts permanents. Rachid, le petit ami, sa mère, Suzanne et sa sœur, Marie-Claire. Et voilà donc pour la vie rangée, la vie ordonnée, j'ai envie de dire, de Sophie Berkman, ce qui cache peut-être des secrets, mais pour l'instant, on n'en trouve pas. Bonjour Laurent Breille.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct dans cette émission, journaliste à La Voix du Nord, et vous êtes en direct du bureau de Lille avec à vos côtés Antoine de Carn, que l'on salue chaleureusement. Je le disais, Sophie Berkman, finalement, c'est la bonne samaritaine, j'ai envie de dire. C'est une vie totalement consacrée à son travail.
Tout à fait. Elle est, en plus de son cabinet, elle œuvrait aussi pour la compagnie des mines, c'est-à-dire pour les anciens mineurs, pour les houillères. Franchement, c'est une vie qui est tournée vers ses patients, qui est toute tournée vers la médecine.
Qui est dévouée à son travail le plus total. Hein. Il y a pas de...
Tout à fait. Et je me souviens qu'à son procès, une de ses cousines dira « On est en train de brosser un portrait idyllique de Sophie », mais c'est tout à fait ça.
Oui,
en fait.
C'est ça. Et c'est ce qui va d'ailleurs étonner les policiers. On va le voir un petit peu au fil de cette heure du crime. Ce profil finalement très lisse, qui n'a pas vraiment de secret. Je suppose, Laurent Breille, qui connaissait bien cette affaire, que lorsqu'on découvre cet assassinat à Valenciennes, dans cette rue qui est somme toute assez tranquille, c'est une stupéfaction.
C'est un quartier bourgeois.
Hein. Ouais,
c'est un quartier bourgeois de Valenciennes, en face d'un parc public. Oui, c'est la stupéfaction. Et c'est aussi la stupéfaction bien au-delà du Valenciennois. C'est une affaire qui a eu une répercussion nationale.
Hein. Bien sûr, parce qu'effectivement, on se demande comme ça, qui pouvait en vouloir à cette femme qui n'apportait que le bien et ne faisait que le bien ?
Et on n'aura jamais de réponse parce que le procès des assises n'en donnera pas.
On va voir effectivement au fil de l'heure du crime ce qui va se passer et comment on va finalement remonter cette piste pour retrouver un coupable, tout de moins une série de suspects. Bonjour Franck Martins.
Bonjour.
Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime dans cette émission. Vous êtes aujourd'hui commandant divisionnaire de police, adjoint au chef divisionnaire pour la lutte du crime organisé. Mais à l'époque, Franck Martins, vous étiez enquêteur à la brigade criminelle de la PJ de Lille. Vous avez parfaitement connu cette affaire et Dieu sait si elle vous a donné du fil à retordre. On va en parler dans cette heure du crime. Parlez-nous, Franck Martins, s'il vous plaît, de cette scène de crime. Je disais, c'est un choc même pour les policiers les plus chevronné.
Oui, alors d'autant plus qu'à l'époque, je suis loin d'être un policier chevronné en matière criminelle, puisque c'est le premier jour de mon affectation à la brigade criminelle. Je m'en rappelle comme si c'était hier, le 7 octobre 2002. C'était un lundi et j'arrivais à la brigade criminelle. Je prenais mes quartiers le matin et le midi, nous étions appelés sur cette scène.
Si je puis dire, c'est un baptême du feu terrifiant. Qu'est-ce qu'elle dit, cette scène de crime, Franck Martins ?
Alors absolument, absolument terrifiant, ça c'est certain, parce que la violence de la vue, en fait, hein, quand on arrive devant ce cabinet qui est en plein centre-ville, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de témoins, on va forcément avoir des témoins, des gens ont vu quelque chose à cette heure-là en plus. Et quand on entre dans ce cabinet et qu'on découvre la scène en elle-même, c'est une vision absolument effroyable.
Vous avez le sentiment que c'est la haine qui s'est exprimée, il n'y a pas d'autre mot, rien n'a été volé, on est venu ici pour détruire une personne.
Justement, c'est ce qui va bouleverser aussi les axes d'enquête, parce que il y a rien de classique, il y a aucun désordre, il n'y a pas de vol manifeste, les bijoux sont présents, et puis il y a un déchaînement de violence absolument inouï, qui ne ressemble pas à une agression qui aurait mal tourné, etc. C'est vraiment là, on a une volonté de faire mal, de détruire, de tuer, mais de massacrer. C'est terrible.
Alors évidemment, Franck Martins, lorsqu'il y a une enquête comme ça, on se tourne toujours vers la famille, les proches, ceux qui connaissent la victime. Là, il y a tout de suite une interpellation qui est assez rapide, c'est celle du petit ami, du fiancé, pourrait-on dire, entre guillemets. Ça donne rien, mais c'est normal, on procède comme ça, un petit peu par cercle, de plus en plus excentrique.
Oui, mais d'autant plus qu'à partir du moment où on constate qu'il n'y a pas de vol, qu'on devine que le mobile n'est pas crapuleux, bien évidemment, on songe à l'acte d'un proche. Et à ce moment-là, effectivement, on détermine à travers la découverte d'une carte de visite sur place qu'elle a une relation avec un monsieur qui va être interpellé très rapidement dans la soirée, mais qui va être très rapidement également mis hors de cause du fait d'un alibi en béton, comme on dit, et voilà.
Laurent Breil, je vous retrouve, journaliste à La Voix du Nord. Vous dites que c'est un quartier bourgeois, beaucoup de gens se connaissent. Là, les langues, c'est pas qu'elles se délient pas, mais personne n'a rien vu, c'est ça ?
Non, c'est la stupeur totale. Ça a dû se passer en quelques minutes. En plus, bon, à une heure où il y a très peu de passages, il est 13h30, si je me souviens bien.
C'est ça, oui, tout à fait.
Voilà, donc personne n'a rien vu.
Personne n'a rien vu dans ce quartier bourgeois de Valenciennes. Impossible de savoir qui pouvait en vouloir à ce point à Sophie Berkmans. La piste d'un déséquilibré n'est pas exclue, même si le meurtrier a frappé très rapidement et avec méthode, sans bruit et sans se faire remarquer. Le 19 octobre 2002, le corps de Marianne Listoire, une étudiante de 18 ans, est découvert en contrebas d'un chemin de terre, le chemin des postes, tout près de Valenciennes. Comme pour Sophie Berkmans, le meurtrier s'est acharné sur la victime avec un couteau. Marianne Listoire a été tuée quelques heures après avoir quitté son domicile pour un rendez-vous. La jeune fille recherchait un petit travail pour pouvoir continuer confortablement ses études. Elle avait placé une annonce dans un journal local gratuit. Impossible de ne pas établir un lien entre les dossiers Berkmans et Listoire. La PJ identifie vite le contact récent et régulier de l'étudiante, susceptible de lui offrir un job, un certain Tahar Bourala, 28 ans, déjà condamné pour agression sexuelle. Il habite le quartier des Floralies à Marly, mais ce natif de Valenciennes s'est précipitamment envolé pour l'Algérie, son pays d'origine. Sa compagne Karine, placée en garde à vue, confirme les doutes sur Tahar. Il fréquentait le chemin des postes et était obsédé par certaines pratiques sexuelles. Karine indique que le jour de la mort de Sophie Berkmans, le couple faisait partie des badauds. Tahar lui aurait alors dit « Embrasse-moi ou je vais paraître suspect ». 29 novembre 2002, Tahar Bourala rentre de lui-même en France, aussitôt interpellé. Les enquêteurs et la juge Marie-Humbert Desvart ont bon espoir de tenir ainsi l'assassin de Marianne Listoire et de Sophie Berkmans. Ils ont cherché les liens pouvant la relier à la radiologue. Bourala traînait souvent dans le parc de la Ronelle. Aurait-il repéré la médecin et voulu abuser d'elle ? Le jour du meurtre de Sophie Berkmans, il s'est absenté en plein repas de midi, 15 minutes environ, sous prétexte d'aller acheter des cigarettes. Interrogé, Bourala reste évasif sur le meurtre de l'étudiante, Marianne Listoire. En revanche, il dément farouchement toute implication dans la mort de la radiologue. Il s'avère en fait qu'il était impossible pour lui de se rendre en voiture le jour du meurtre jusqu'au cabinet du docteur Berkmans, de la tuer et de revenir finir de déjeuner avec sa petite amie et la mère de celle-ci. La piste Bourala, qui paraissait en tout point solide, se désagrège. Le suspect ne sera poursuivi que pour l'assassinat de Marianne Listoire et condamné à 30 ans de prison. La police repart à zéro avec un dossier Berkmans qui ne semble livrer aucune clé. La vie privée de la victime a été passée au crible, ses habitudes étudiées, ses moindres fréquentations passées à la loupe. Il s'avère que la radiologue avait une excellente réputation professionnelle et une vie des plus lisses. Quelques hommes rencontrés épisodiquement, essentiellement des liaisons amicales, avec l'espoir, disent ses proches, de trouver un jour un compagnon et pourquoi pas de fonder une famille. Un mineur de 17 ans, cambrioleur dans le quartier de l'avenue Carnot est interpellé après avoir placé un couteau sous la gorge d'une vieille dame. Il a un profil d'homme déterminé et violent, mais il n'est pas le meurtrier de Sophie. Son ADN ne matche pas avec les deux seuls indices probants découverts tardivement lors d'expertises poussées. Deux fragments d'ongles masculins brisés lors de l'agression. L'un d'eux a griffé Sophie Berkmans. Et on va voir dans cette heure du crime que ces fragments d'ongles vont servir de fil rouge à toute cette enquête, avec l'espoir évidemment de retrouver le meurtrier. Franck Martins, à l'époque enquêteur à la brigade criminelle de la PJ de Lille, policier un jour, policier toujours, j'ai envie de dire, puisque vous êtes toujours dans le métier. À l'époque, il y a quelque chose de frappant dans cette enquête, en tout cas moi qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on ne trouve rien sur la victime. C'est rare, on dit jamais que quelqu'un n'a pas de secret. Et là, ça a l'air d'être le cas pour Sophie Berkmans.
Alors, c'est pas que ça a l'air d'être le cas, c'est que c'est le cas. Mmh. C'est une femme absolument remarquablement discrète, qui a une vie absolument rangée, qui n'a pas de secrets cachés dans les tiroirs. Elle consacre tout son temps à son métier. C'est une étudiante qui a fait des études brillantes. Elle n'a pas de problème particulier. Elle a une vie sentimentale avec son compagnon du moment, là, qui est tout à fait classique, on va dire. Et on ne trouve rien dans sa vie qui pourrait constituer le mobile pour quelqu'un d'avoir commis une telle agression.
Et ça, en matière de police judiciaire, je suppose que ça ne facilite pas votre boulot.
Ça facilite pas le boulot parce que vous imaginez bien que lorsqu'on a ce genre d'affaires, entre guillemets, de crime, on recherche en premier le mobile et qu'est-ce qui a pu conduire quelqu'un à commettre un acte et là, en l'espèce, un acte aussi violent. Quand on a une personne qui est complètement, consacrée à son métier, qui n'a pas de vie en dehors de faire son ménage, son métier, sa cuisine, son ménage, son métier, sa cuisine, ses commissions, elle ne fréquente que son compagnon, sa sœur, Marie-Claire et sa mère.
Et sa mère.
Voilà. Donc elle a en plus un relationnel très restreint. Et voilà, elle a une petite vie tranquille. C'est une petite femme tranquille qui embête personne et qui, au contraire, aide beaucoup de monde. On comprend pas ce qui se passe. Moi, à titre personnel, j'ai pensé à une agression sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on la découvre avec
à moitié dénudé,
relevé, la culotte en bas du pubis, etc. Donc il y a toujours l'idée qu'elle a pu être agressée sexuellement, même si on n'a pas décelé de violence sexuelle particulière. On peut imaginer qu'il y avait eu peut-être une tentative. Donc l'idée c'était ça. L'idée c'est est-ce que c'est pas un agresseur sexuel qui sévit, quoi. D'autant avec l'histoire qui va arriver par la suite.
Bien sûr, une espèce de mise en scène perverse. C'est ça que vous avez pensé à ça aussi.
On a pensé à l'acte d'un proche qui avait maquillé effectivement son acte en agression sexuelle, ou tout simplement une véritable agression sexuelle, ce qui était possible.
Encore un mot, Franck Martins, je crois que l'enquête elle est allée bien au-delà de la France, vous êtes allé jusqu'en Belgique pour voir si finalement Sophie Bergmans n'était pas connue là-bas, dans des boîtes de nuit, même des boîtes échangistes, je crois.
Oui, alors... Ce volet de l'enquête, alors c'est un peu pervers si vous voulez, parce que ce volet de l'enquête qui consiste à essayer de voir si malgré tout on n'a rien trouvé, il y a quand même quelque chose qui est caché, etc. On tourne en rond et puis on finit par se convaincre de choses qui n'existent pas. Il faut être très vigilant par rapport à ça quand on est enquêteur. Et si vous voulez, l'intervention de Tahar Bourala dans cette histoire, qui lui fréquentait des clubs échangistes avec son ami, etc., nous a orientés à juste titre. Puisqu'on pensait qu'il était possible qu'il soit lié au meurtre du docteur Bergmans, nous orienter à effectivement faire des vérifications sur la vie éventuelle secrète du docteur. Mais voilà, c'était un axe d'enquête qui a été quand même rapidement abandonné.
Voilà, c'est allé dans une impasse. Laurent Bray, journaliste à La Voix du Nord, en direct dans l'heure du crime, cette piste qu'on vient d'évoquer de Tahar Bourala, elle va donner beaucoup d'espoir. Ça y est, on a l'impression que là, on tenait vraiment le meurtrier de Sophie Bergmans.
Oui, parce que c'est arrivé quoi, 3 semaines après le meurtre de la rhumatologue et bon, c'est normal que les regards se tournent vers lui, mais bon, c'est une piste qui a vite été abandonnée.
C'est ça, qui est tombée à l'eau. Je suppose qu'à ce moment-là, dans l'enquête, puisque ça progresse doucement, on ne sait pas trop où ça va, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence à Valenciennes. 30 personnes interrogées, 15 gardes à vue, je crois, c'est allé... Tout le monde doit se dire, mais est-ce que le meurtrier est parmi nous ?
Je peux pas vous répondre à cette question, mais c'est sûr que ça a créé une immense émotion.
Une psychose, en tout cas. Ce deuxième meurtre aussi. Hein.
Tout à fait, oui.
Maître Julien Dulacrue, bonjour.
Bonjour.
Je vous prends un petit peu en avance parce que vous êtes l'avocat, on le verra dans cette heure du crime, d'une personne qui a finalement été interpellée. On va y venir évidemment dans l'heure du crime. Je voudrais juste un mot sur cette découverte des fragments d'ongles d'ADN. Ce sont les seules traces ADN masculines que l'on retrouve sur cette scène de crime ou bien il y en a d'autres ?
On va retrouver dans mon souvenir d'autres traces, notamment une touffe de cheveux, me semble-t-il, proximité du corps de la défunte. Et effectivement, qui font faire aussi l'objet d'expertise et qui vont nous interpeller dans le cadre de la défense de cet homme, notamment sur l'idée, puisque nous sommes aussi, nous, dans le grand questionnement, face à un homme dont on verra tout à l'heure, dont vous direz qu'il va contester les faits avec la plus grande énergie, de voir quelles sont les pistes qui peut-être auraient pu aussi être exploitées, en contrepoint de cette piste des ongles dont vous avez déjà parlé.
Bien sûr.
Et qui vont révéler l'ADN de M. Medjahed.
Alors, pas facile cette enquête, on en parlait avec Franck Martins. Vous êtes d'accord là-dessus, maître, même si vous allez défendre quelqu'un qui est accusé. Pas facile de remonter cette piste. Ça part difficilement, cette enquête.
Ah, c'est extrêmement difficile. Et on sait, de toute façon, la défense que j'incarnais avec Blandine Lejeune a concédé que... Il s'était agi d'une affaire tout à fait tragique dans le cadre de laquelle il y a un travail considérable qui a été fait. Mmh. Énormément de questions qui ont été posées jusqu'à l'interpellation de celui qui va s'avérer être le suspect numéro un très longtemps après. Mais une affaire qui a puissamment marqué le Nord, qui a ému la population et ce qui a rendu évidemment la défense de celui qui a été finalement renvoyé devant la cour d'assises d'autant plus difficile et délicate. Face à une famille dont je dois dire, puisque on en parlera certainement, la famille de Mme Berkmans, qui était d'une immense dignité.
Une immense dignité.
Elle dit une grande dignité, parce que d'abord, évidemment, elle avait enduré tout ce parcours au-delà de ce drame. Mais j'ai le souvenir, et je le dis, ça m'avait marqué de voir cette famille qui était restée très digne à l'occasion de ce procès.
Et évidemment, on va en parler dans cette heure du crime. Pour l'instant, c'est une enquête décourageante. Il va falloir attendre encore 6 ans pour que la lumière jaillisse dans le dossier. Cette fois, les policiers vont avoir la certitude de tenir enfin le suspect numéro 1. Ce 11 avril 2008, les enquêteurs chargés du dossier Sophie Berkman, SOSRPJ de Lille, sont confrontés à une série de désillusions. Enfin, ils reçoivent un message encourageant. L'ADN retrouvé sur les bouts d'ongles masculins recueillis sur la scène de crime, cet ADN a fini par matcher. Il correspond au dénommé Mohamed Medjahed, 49 ans, un homme d'origine algérienne arrivé en France à l'âge de 10 ans. Son ADN avait été prélevé après qu'il ait été surpris en train de dégrader des voitures à coups de clé dans une rue de Valenciennes. Le casier de cet homme divorcé, père de 3 enfants, est chargé. Une tentative d'homicide en 1981 sur une jeune femme laissée pour morte dans une mare, 8 ans de prison, des attentats à la pudeur sur 2 femmes. Une ex-infirmière avait récemment signalé au procureur un SDF qui avait un jour sonné chez elle et exhibé son sexe. Il fréquentait justement le parc de la Ronelle face au cabinet du docteur Berkmans. L'ex-infirmière reconnaît sur photo le suspect. Le 23 avril 2008, Mohamed Medjahed est interpellé dans un hôtel miteux à Anzin où il loue une chambre. L'homme, physique puissant, barbu et crâne en partie dégarni, se laisse arrêter. Dans la chambre, pas d'armes, mais un fatras de feuilles manuscrites, un charabia incompréhensible portant des prénoms de femmes, des dates, des lieux, des dessins, des phrases sans queue ni tête. Medjahed, interrogé par la PJ de Lille, dément tout lien avec Sophie Berkman. Il ignore qui elle est. Le test ADN est confirmé. La même trace est retrouvée sur les débris d'ongles retrouvés sur la scène de crime. Medjahed s'enferme dans le silence le plus total, même s'il est en très mauvaise posture. Il n'a pas d'alibi pour la journée du 7 octobre 2002. Qui plus est, les analyses génétiques et son passé d'agresseur sexuel font bel et bien de lui le suspect idéal. Un suspect idéal et un suspect numéro 1. Maître Julien Delarue, c'est vous qui êtes l'avocat de Mohamed Medjahed, avec maître Blandine Lejeune, et vous allez le défendre dans cette affaire. Bah déjà, faites-nous le portrait de cet homme, j'allais dire ô combien mystérieux, mais quasiment déséquilibré, vu ce qu'on a trouvé dans cette chambre d'hôtel.
Alors, il y a effectivement ce qu'on va saisir dans cette chambre d'hôtel. Il y aura des expertises, évidemment, psychiatriques et psychologiques, mais... rien qui, dans mon souvenir, ne laisse entendre que celui-ci, clairement des problèmes ou des difficultés d'ordre psychiatrique ou psychologique. Mmh. C'est vrai qu'il a un parcours marginal, on ne peut pas dire le contraire. D'ailleurs, vous disiez qu'il n'a pas d'alibi pour le jour des faits, mais en réalité, il fallait contrebalancer ça par le fait que c'est un homme qui n'avait pas d'activité et que 6 années après les faits qu'on lui reproche, il était très difficile pour la défense et même pour lui d'éventuellement trouver un alibi.
C'est une espèce de SDF, il certain... faut le dire comme ça.
Hein, c'est voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était peu inséré, un petit peu... voilà, et qui finalement avait assez rapidement le profil de quelqu'un qui évidemment pouvait intéresser la justice. En contrepoint, évidemment, du fait qu'on découvre son ADN, enfin qui va venir s'ajouter à cela.
Bien sûr.
Et Et donc faire de lui, comme vous l'avez dit, évidemment, un suspect important.
Oui, le suspect numéro un. Frank Martins, à l'époque, vous êtes enquêteur à la brigade criminelle. Vous avez déjà passé pas mal d'années sur ce dossier. Je suppose que là, enfin, peut-être vous le tenez, c'est ce que vous dites. Enfin, on le tient, le meurtrier de Sophie Berkmans.
Oui, enfin, au moment des faits de sa garde à vue, on dit jamais, nous, en tant qu'enquêteurs, ça y est, on le tient, mais on est effectivement...
Ah, vous avez un espoir quand même, monsieur Martins.
La devise de la PJ, c'est toujours croire et douter. Donc voilà, on respecte la devise, et en l'espèce, on a quand même bon espoir qu'on ait le bon individu, mais on instruit à charge et à décharge avec le juge instructeur. Hein. Donc on fait une enquête comme on les fait toutes, sérieusement, en voyant quels sont les points qui peuvent le confondre, quels sont les points qui peuvent nous orienter vers sa culpabilité, et quels sont éventuellement les alibis, etc., qui pourraient nous opposer. Et là, en l'espèce, outre l'ADN, qui, je le rappelle, nous a conduit à lui, il y a quand même pas de doute sur le fait que ses ongles, ce sont bien les siens, sur la scène de crime, et qui baignent dans le sang de la victime. Donc là, il y a un minimum d'explications à donner, et il ne nous les fournit pas, il nous donne des explications.
En deux mots, il dit rien, quoi. Il tourne en rond.
Il dit rien, il est assez mutique, et quand il parle, il est très confus. C'est quand même, oui, des propos un peu sans queue ni tête, sont un peu à l'image des documents qu'on découvre lorsqu'on l'interpelle. Hein.
Dans la fameuse chambre d'hôtel, évidemment. Voilà. Mohamed Medjahed est en première ligne dans le meurtre de Sophie Berkmans. Il nie, mais tout semble l'accuser, et le juge va le renvoyer devant une cour d'assises. Peut-être sera-t-il alors plus bavard. 6 décembre 2010, Mohamed Medjahed, marginal de 52 ans, se présente devant la cour d'assises du Nord à Douai. Silhouette trapue dans un blouson marron et portant une épaisse barbe grise, ses avocats, maître Blandine Lejeune, Julien Delarue, sont prêts à contester l'ADN comme reine des preuves. Ils rappellent la présence de 2 traces ADN sur des cheveux découverts sur la scène de crime, 2 ADN restés inconnus. L'avocat de la famille Berkmans, Pascal Van Elder, ne se fait guère d'illusions sur les confidences que pourrait faire la accusé. Il le présente comme un spécialiste de la dénégation. La mère de Sophie Berkmans est venue pour savoir qui est l'homme qui a tué sa fille. Mais dit-elle, c'est un homme qui ment. Les débats ne vont pas aller beaucoup plus loin. À 15h, coup de théâtre. Une femme d'une 60aine d'années, citée par la partie civile, lunettes noires et perruque, indique qu'elle a des révélations à faire. Mais elle tremble à l'idée de s'exprimer. Elle demande et obtient le huis clos. Ce témoin de dernière minute indique que Medjahed ne serait qu'un homme de main. Il aurait agi sur les recommandations de la femme jalouse d'un garagiste de la région. Cette épouse était persuadée que son mari avait une liaison avec Sophie Berkmans. Elle ne supportait pas l'existence de cette maîtresse et rivale. Le procès est suspendu, un complément d'enquête ordonné. L'enquête est ainsi rallongée de quelques mois, les divers protagonistes sont interrogés, mais la témoin s'avère fantaisiste. En la faisant citer, la partie civile voulait à tout prix purger le dossier d'un témoignage qui aurait pu polluer pendant des années le dossier. Et on retrouve dans cette heure du crime Laurent Breil, journaliste à La Voix du Nord depuis le bureau RTL de Lille. Ce procès, aussitôt ouvert, aussitôt fermé, c'est une vraie surprise, ce témoin de la dernière minute qui déboule.
Oui, d'autant plus que c'est quelque chose qui est amené par
la partie civile.
La partie civile, oui, c'est le propre frère de Sophie Berkmans qui apporte ça, mais... De toute façon, il fallait faire ces vérifications avant d'aller plus loin. Ouais. Je pense que la présidente de la cour d'assises, à ce moment-là, a pris la bonne décision. Si on était passé à côté de quelque chose, ça aurait pu polluer le reste des débats.
Parce qu'en fait, Laurent, l'affaire avait déjà que trop duré et il fallait purger absolument tout ce qui pouvait survenir dans ce dossier, c'est ça ?
Voilà, il fallait pas que les débats soient pollués par un doute. À partir du moment où cette femme instille le doute, même si ça s'est révélé complètement farfelu et ne menant nulle part, il fallait l'évoquer, ce qui fait que le procès a été repoussé de 6 mois.
Oui, voilà. Tout à fait. Je suppose, Laurent Breil, que vous jetez évidemment un coup d'œil à l'accusé, parce que tout le monde veut voir le visage qu'il a. Comment est-il ? Dites-nous, présentez-nous en quelques mots comment il apparaît.
Moi, il m'apparaît comme un être bougon, renfermé sur lui-même, qui marmonne dans sa barbe. La reprise du procès 6 mois plus tard, c'est quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre.
C'est ça.
Limite, c'est lui la victime.
C'est ça, il va se plaindre, il va bougonner, comme vous dites, ça c'est tout à fait vrai, vous l'avez bien observé à ce début de procès. Maître Julien Delarue, c'est vous qui, avec Maître Blandine Lejeune, avez la charge de défendre Mohamed Mejahed. Comment vous l'avez préparé? Est-ce que vous avez pu préparer ce dossier, au fait, avec cet accusé qui paraît très mutique?
Ah bah on a fait notre boulot, mais c'est vrai que dans ce genre d'affaires, et comme dans tout type d'affaires, on prépare la défense, on prépare le dossier. Le travail, ça a été de discuter avec lui, de faire un point, et puis finalement, on allait assez vite. Pourquoi ? Parce que la question de ce dossier, c'est la présence de cet ADN sur cette scène de crime, c'est ce qu'il était, c'est sa position par rapport à cela. D'une certaine façon, les questions qu'on a pu lui poser sont celles qui lui avaient été posées dans le temps de l'enquête, et d'essayer, autant que faire se peut, de voir si nous pouvions reconstituer son histoire à l'époque des faits, ce qui évidemment était extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, face à quelqu'un dont j'ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas d'emploi du temps, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'agenda.
Tout à fait.
Donc ça a été très difficile. Donc en réalité, nous étions plus, avec Blandine Lejeune, dans une dynamique qui consistait à dire cet ADN sur la scène de crime, est-ce que c'est ça et uniquement ça qui peut signer cette culpabilité ?
Vous allez d'ailleurs dire, avec Maître Lejeune, vous allez dire, on a pu l'apporter, cet ADN. C'est-à-dire que les pompiers ont pu marcher sur un morceau d'ongle, finalement, et l'apporter sur la scène de crime.
C'est vrai. C'est-à-dire que, en réalité, la défense, dans une affaire de cette nature, et face à l'ADN, dont on sait qu'elle est un élément de preuve aujourd'hui très important dans un procès, c'est d'essayer de savoir si cet ADN, eh bien, il n'a pas été peut-être transporté. À partir du moment où vous êtes face à quelqu'un qui conteste les faits, on doit pouvoir émettre cette hypothèse, d'autant plus, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que l'enquête va révéler également la présence de deux autres ADN non identifiés dans le cadre de cette procédure, et que l'on va aussi pouvoir, non pas démontrer, mais dire que très certainement la scène de crime a été
polluée,
jamais sciemment, mais sans doute quand les gens ont été confrontés à cette scène de crime épouvantable, on n'a pas forcément pris au départ et à l'époque toutes les précautions.
Ce
n'est pas une critique que je fais facilement à l'égard des
enquêteurs.
Mais c'est ce qu'on devait dire au cœur du procès.
Évidemment.
Parce que ça posait une vraie question.
C'est votre ligne de défense. Après 7 mois de complément d'enquête, le procès d'assises va pouvoir reprendre son cours et peut-être enfin poser un point final à cette douloureuse affaire. Le 6 juin 2011, Mohamed Mejahed est de nouveau devant les Assises du Nord. Sa ligne de défense n'a pas bougé d'un pouce. Rien ne démontre qu'il ait été un jour consulté ou qu'il ait même fréquenté un jour la victime, affirme alors Maître Delarue, un de ses avocats. Le débat se focalise autour des 2 fragments d'ongles retrouvés près du corps de Sophie Berkmans, ongles qui portent l'ADN de Mejahed. Maître Lejeune, avocate de l'accusé, avance la thèse d'une pollution de la scène de crime. C'est de la science-fiction, rétorque la mère de Sophie. Moi, je voudrais simplement savoir pourquoi cet homme a tué ma fille dans le box. Mejahed ne bronche pas, il ne fait aucun commentaire, ne répond pas aux questions, muré dans un silence dont il ne sortira pas. Mohamed Mejahed est condamné à 30 ans de prison, assorti de 18 ans de sûreté. Curieux procès express au cours duquel aucune réponse n'aura été donnée à cette question qui hantait la famille Berkmans. Pourquoi Mejahed avait tué leur fille et leur sœur? Le condamné a pris le chemin de la prison sans livrer aucun de ses secrets. Le père de Sophie, malade du cœur, tourmenté par ce drame, était mort avant de pouvoir connaître l'épilogue de cette affaire. Et on retrouve dans l'heure du crime Maître Julien Delarue en direct du bureau de Lille avec à ses côtés Antoine Decarne. Vous êtes l'avocat de Mohamed Mejahed à ce procès, on l'a dit, avec Blandine Lejeune. Pourquoi il n'a pas fait appel, votre client ?
Alors il a fait appel et il s'est désisté.
Pourquoi ?
Alors, il ne me l'a pas dit. Voyez-vous comme quoi il y a au final de cette affaire un certain nombre de non-dits. Que je n'interprète pas. Moi, j'ai laissé M. Mejahed avec Blandine Lejeune comme quelqu'un qui se disait innocent, qui a fait cet appel, mais qui ne l'a pas poursuivi. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Tout un chacun peut l'interpréter.
Vous aviez demandé, Maître, avec Blandine Lejeune, des compléments d'enquête, notamment sur les autres ADN à découvrir ?
Alors, non, parce que malheureusement, ces ADN avaient été identifiés dans le cours de l'instruction, mais ils n'avaient pas pu être. Ils ont été évidemment passés au fichier FNAG.
Ils confrontaient, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Le souci, c'est ça. C'est-à-dire que si on avait pu mettre un nom sur ces ADN, ça n'aurait soit rien donné du tout, soit ça aurait pu éventuellement ouvrir sur d'autres pistes. Le souci, c'est en réalité l'addition de l'ADN de M. Medjahed à son parcours, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à son profil, à peut-être aussi l'impression qu'il a fait sur la cour d'assises, et du fait qu'à un moment donné, les jurés et la cour se sont convaincus qu'il était certainement le seul et unique auteur de ce crime. Ouais. Bon, on a eu ce sentiment, et il n'y avait pas, pour vous dire, parce que cette question est très pertinente, c'est vrai qu'elle peut, elle peut s'imposer, cette demande de supplément d'information, mais ce dossier, malheureusement, ne le permettait pas.
D'accord.
Et c'est peut-être à raison du fait, notamment pour la défense, que 6 années s'étaient écoulées entre le meurtre et l'interpellation de cet homme.
Tout à fait, donc ça faisait beaucoup de temps qui s'était écoulé. Laurent Breil, journaliste à La Voix du Nord, je parlais de la famille Berkmans qui a été écrasée par ce meurtre, une famille qui était très unie. Là, il y a un soulagement, mais à la fois, il y a cette frustration de ne pas savoir, finalement, parce que l'accusé, il n'a rien dit.
Non, il s'est enfermé dans sa stratégie d'évitement. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai rarement vu une famille aussi digne dans un procès d'une noblesse absolument magnifique. Ils sont repartis avec autant de questions qu'ils avaient au début. Ils ne savent toujours pas pourquoi Mohamed Medjahed s'en est pris à leur fille.
C'est-à-dire que
ils ne le sauront jamais, ils vivront avec ça jusqu'à leur mort. Quoi.
Tout à fait.
Ça doit être un poids énorme.
Un poids énorme, effectivement, c'est comme si la foudre était tombée sur ce cabinet de rhumatologie, et sans comprendre pourquoi celui-ci avait été choisi et pourquoi cette jeune femme qui n'avait pas d'ennemis, qui était l'amie de tout le monde, a été frappée. Frank Martins, policier à l'époque, vous avez enquêté sur cette affaire, vous allez avoir le mot de la fin. Je voudrais, quelle morale vous tirez de cette histoire? Histoire, vous, 6 ans pour arrêter un meurtrier, le faire condamner, ça a été compliqué. Vous en avez encore des souvenirs très précis de cette histoire, je suppose.
Des souvenirs très précis, bien sûr, parce que c'est, comme je tiens quand même à le dire, c'est effectivement une très belle personne qui a été assassinée avec une sauvagerie inouïe et une belle famille qui a été complètement brisée et qui, malgré cela, a été digne jusqu'au bout. Et ça peut arriver à n'importe qui, c'est ce que je retiens. Alors, quant à l'enquête en elle-même, oui, 6 ans, ça peut paraître long, mais au moins, on a un nom, on a un coupable qui a été condamné par une cour d'assises. Alors, il m'appartient pas à moi de commenter la décision de justice, bien évidemment, mais on a renvoyé une personne devant une cour d'assises dont je reste convaincu de la culpabilité.
Voilà, et cette personne a été jugée et effectivement condamnée. Merci beaucoup, Frank Martins, Laurent Beyre et Maître Julien Delarue. Vous étiez, vous, en direct du bureau RTL de Lille avec Antoine Decarne. Merci également à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.